Bon, ben on va commencer ce matin par la situation à Gaza. Évidemment, on connaît le bilan. 60 Palestiniens qui ont été tués, plus de 1000 qui ont été blessés lors de ces manifestations au moment du déménagement, en fait, l'ouverture officielle de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et ça s'est passé le long de cette immense clôture. D'un côté, les policiers militaires israéliens et de l'autre, des manifestants palestiniens. Fabrice de Pierrebourg s'est rendu en décembre, justement, à Gaza. Donc, il est allé en Israël, en Palestine. Il y avait déjà à ce moment-là des manifestations. Fabrice, on peut parler, évidemment, peut-être pour le bénéfice des auditeurs, là, décrire l'endroit comme tel, là, parce que c'est difficile peut-être pour bien des gens de visualiser.
Oui, Paul. Gaza, pour dire, c'est une sorte d'enclave. C'est vraiment une enclave. C'est un territoire d'environ 350 km², un rectangle qui est situé le long de la Méditerranée et qui partage environ 50 km de frontière avec Israël. Donc c'est au sud-est d'Israël, le long de la mer, et au sud, c'est l'Égypte. À l'intérieur de ce territoire enclavé, à l'intérieur de cette clôture, cette large clôture qui sépare donc Gaza d'Israël, il y a environ 2 millions d'habitants qui vivent dans un état de survie perpétuelle. C'est un blocus complet depuis environ 10 ans. Ils ne peuvent pas sortir de là, ils sont littéralement enfermés. Et tout autour, et de Gaza, on voit très bien Israël, parce que la topographie des lieux, je dirais que c'est plus proche de la Montérégie que des Laurentides. Ce sont du côté israélien, ce sont des champs. Il y a des colonies israéliennes, certaines sont à quelques centaines de mètres. Il y a des villes qui sont un peu plus loin, je dirais la plus proche est Sderot, qui est environ 1 km. Et Ashkelon, pareil, environ 1 km, 2 ou 3 km. Et ces villes-là, quand j'étais allé en décembre, avaient reçu régulièrement des roquettes la nuit qui venaient de Gaza, qui étaient tirées par des mouvements djihadistes. Les manifestations donc ont lieu de cette clôture, mais c'est évident que le rapport de force est largement en faveur d'Israël. Ce sont des manifestations qui sont effectivement quand même violentes, mais malgré tout, faut quand même relativiser, parce que les Palestiniens, de leur côté à eux, on le voit sur les images, avaient des lance-pierres, jetaient des cocktails Molotov ou des pneus enflammés, mais en face, on a quand même une force militaire. Et ça aurait été, à mon avis, extrêmement facile pour les Israéliens de gérer ça d'un point de vue strictement maintien de l'ordre policier, parce que vous avez des tireurs d'élite, vous avez de l'artillerie, vous avez tout ça du côté israélien, et de l'autre, peut-être qu'effectivement là-dedans, il y avait des militants du mouvement Hamas qui contrôlent la bande de Gaza depuis 10 ans, mais malgré tout, ils n'étaient pas équipés de moyens lourds, quoi.
Donc, Israël prétend qu'une des stratégies du Hamas, c'est d'envoyer femmes, enfants le long de cette clôture, provoquer l'armée, bon, avec des roches ou
oui,
avec des cocktails Molotov, et que finalement, se cache derrière des gens du Hamas qui ont comme objectif, entre autres, de s'en prendre à des soldats, les kidnapper, les amener de leur côté et peut-être éventuellement donc les blesser, les garder en otage ou les tuer.
Oui, mais probablement, le Hamas est très puissant à Gaza. Moi, je l'avais vu quand j'étais allé. Et beaucoup de gens, même si certains sont très critiques envers le Hamas, parce qu'ils considèrent que c'est ce mouvement-là palestinien islamiste qui les a provoqués dans le chaos, beaucoup étaient derrière le Hamas. Et à l'époque, beaucoup m'avaient dit qu'ils rêvaient, j'ai retrouvé mes notes, vraiment de mourir en martyr, parce que pour eux, ils n'ont plus rien à perdre, quoi. Mais il y a eu effectivement des tentatives d'infiltration. Le Hamas a creusé des tunnels le long de cette longue barrière de sécurité pour aller en Israël. Et la crainte d'Israéliens, c'est qu'ils s'en servent, mais lors d'opérations commando, la nuit, pour aller dans des kibbutz, pour aller dans des colonies, kidnapper, c'est déjà arrivé d'ailleurs, kidnapper des Israéliens ou des soldats israéliens et les ramener à Gaza. Mais c'était pas du tout ce contexte-là. Là, on voit que c'est une manifestation de masse. Probablement que le Hamas a mobilisé hommes, femmes et enfants, mais je vous dirais, Paul, qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés, à mon avis, à mobiliser ce monde-là. Encore une fois, ce sont des gens qui n'ont sentiment, qui n'ont plus d'avenir. L'ONU avait donné des statistiques il y a quelques années qui étaient assez effrayantes. Je veux dire, 50% de la population n'a pas d'emploi. Il y a de l'électricité. Moi, je l'ai vu à peine 2-3 heures par jour. Difficulté d'avoir d'eau potable. Et l'ONU considérait que la vie à l'intérieur de Gaza, ça serait invivable à Gaza à partir de 2020. Alors, c'est sûr que c'est un cercle vicieux, hein. Chacun accuse tout le monde, mais encore une fois, le rapport de force plaide largement en faveur d'Israël. C'est une grande plaine. Il y avait une possibilité, advenant le cas où la clôture tomberait, d'empêcher quand même les Palestiniens d'approcher des villages israéliens, mais ils ont employé une force, à mon avis, qui était démesurée, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice de Pierrebourg.